Puis maintenant, on va essayer de bâiller très doucement. Bâillons bien. Vous allez faire, vous, des sons de la mer, des sons, choisissons tous les sons de l'eau. Vous nagez, vous êtes des poissons, vous êtes des algues, hein? Alors.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
À bon Richardot.
Un événement du passé mis en récit, mêlé à des archives et des musiques choisies. Chaque samedi à 19h et à toute heure sur franceculture.fr, glissez votre dernier dollar dans le jukebox. Ce soir, pour cet ultime épisode de la saison et avant que nous prenions nos quartiers d'été, nous plongerons donc parmi les algues, nous secourons notre chevelure sur des rythmes funky pour vous raconter l'histoire d'une création hors norme, celle de la comédie musicale Hair. Montée en 1967 à New York, cette chronique de la jeunesse hippie, écartelée entre le drame de la guerre au Vietnam et l'aspiration à plus de liberté, avait, dès ses débuts, fait jaser en raison de ses mœurs débridées, avant de connaître un succès planétaire, devenant l'emblème de la contre-culture américaine sur le déclin. Dans cette histoire, on croisera deux auteurs en quête de personnages, un compositeur cravaté, un producteur frileux, des acteurs effeuillés et des spaghettis dans les cheveux. Ce soir, Hair, le musical, quand les hippies s'invitent à Broadway. Ils attendent en silence, tentant de déchiffrer les expressions sur le visage de l'homme qui, assis à son bureau, parcourt le document, ne leur prêtant aucune attention. Sur la table, une petite horloge mécanique produit un tic-tac régulier et agaçant. Soudain, le type relève la tête et lâche « Mais ça n'a aucun sens! Vous les voyez, les spectateurs, chanter ça, ce tissu d'absurdité ?» Les gars, non, vous avez frappé à la mauvaise porte. Ici, on produit des classiques, le genre Rodgers ou Hammerstein. On ne fait pas dans le caritatif ou dans le gauchisme. Assise entre les deux auteurs, Janet, l'agent, tente bien d'intercéder alors que le directeur du théâtre s'est remis sur ses pattes. Bien sûr, dit-elle, c'est audacieux, parfois abscon, mais ça parle d'aujourd'hui, de la jeunesse qui vit dans ce pays. Vous la trouvez lisible, vous, l'époque actuelle ? De la rue monte la rumeur hilare d'un groupe de jeunes gens que le producteur fait mine de ne pas entendre et il engage le trio de visiteurs vers la sortie. Désolé, mais pour les trucs hippies, c'est pas vraiment le lieu. Nous, on fait dans l'âge d'or du musical, pas dans l'ère du verso. C'est la fin de la journée sur Broadway, ce jour de 1967. Autour, New York, la clinquante, la vorace, avale et recrache tout, produit, vend, achète. Et tandis que la fourmilière fourmille, l'industrie du divertissement affûte elle aussi ses armes avant la nuit qui vient. Et sous les néons des théâtres qui s'allument, toute une foule de comédiens et d'actrices convergent vers leur lieu d'embauche où, quelques heures plus tard, ils gaveront de leur numéro le ventre de la bête. Parvenu dans la rue, l'agent et ses deux auteurs se regardent désemparés. Il faudra bien un jour ou l'autre que Broadway se fasse à l'idée d'être le reflet de son époque, mais l'heure n'est pas encore venue.
When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars.
This is the dawning of the age of Aquarius, the age of Aquarius.
quand la Lune est dans la septième maison, que Jupiter est aligné avec Mars, la paix guidera les planètes et l'amour dirigera les étoiles, c'est l'aube, l'avènement de l'ère du Verseau. Aquarius, le Verseau qui ouvre air, ici dans la version enregistrée le 6 mai 1968 à New York avec le casting originel de la version de Broadway. Mais pour aller dans le sens des producteurs, des directeurs de théâtre qui avaient dans un premier temps refusé le spectacle, à quoi rime donc cette histoire de nouvelle ère? France Inter, 21 octobre 1967.
Bernard Nicot, le premier titre de ce journal, bien entendu, les manifestations contre la guerre du Vietnam.
À Washington, il est en ce moment 15h, c'est le milieu de l'après-midi, et depuis plusieurs heures, des dizaines de milliers de pacifistes manifestent contre la guerre du Vietnam. La capitale américaine est en état de siège, 30 000 hommes de troupes la quadrillent. Pour l'instant, il y a des cris, il y a beaucoup de cris, mais pas d'incidents graves.
Et Michel Enfrol est au milieu des manifestants.
Ici, Washington. Le soleil est au rendez-vous. Depuis un mois, il n'avait pas fait aussi beau et aussi chaud. Une torpeur qui, malgré le bruit des haut-parleurs, incite bien des manifestants à s'allonger sur l'herbe et à faire une bonne sieste en attendant que les événements se précisent. L'atmosphère est plutôt celle d'une kermesse, un grand pique-nique. Spectacle de marionnettes, pour commencer, danse inspirée du folklore vietnamien, autres chants folkloriques plus américains, ceux-là, et chants satiriques comme ceux que vous entendez en ce moment. Tout cela occupe la foule, la tient un peu en haleine en attendant que commence la véritable manifestation. Les chanteurs que vous entendez en ce moment dénoncent les activités criminelles de l'oncle Sam. Le spectacle est à la fois sympathique et impressionnant dans ce cadre splendide, l'un des plus beaux panoramas qui soit au monde, de Washington près du Potomac à travers la ville. Et le service d'ordre pour l'instant est très discret. Il faut dire que cette réunion ne fait que commencer.
Cette année 67, l'opposition à la guerre au Vietnam ne cesse d'enfler aux États-Unis à mesure que s'y embourbent de plus en plus de GIs, 510 000 à ce moment-là. La liste des gars tombés dans un pays que beaucoup d'Américains ne savent pas situer sur une map monde et qui reviennent enfermés dans des sacs devient intolérable à une partie croissante de l'opinion publique. D'autant que la conscription cible en priorité les jeunes les moins favorisés, permettant à tous ceux mieux nés qui disposent de relations aux jeunes gens mariés ou bien aux étudiants d'échapper à la mobilisation. Les manifestations se multiplient, fustigeant la politique du président Johnson à travers un slogan resté célèbre « Hey, hey, LBJ, combien d'enfants as-tu tué aujourd'hui ?» En mars 66, un cortège rassemble 50 000 personnes à New York. Ils sont le double l'année suivante à Washington. De nombreux appelés protestent contre la conscription en déchirant ou en brûlant leur convocation. D'autant que cette guerre apparaît de plus en plus injuste tandis que la presse ou les reportages télévisés se font l'écho de massacres de civils vietnamiens ou du recours de plus en plus fréquent au terrible napalm. Face à cette incarnation d'une nouvelle barbarie, la jeunesse se réfugie dans les drogues et le psychédélisme, celui des premiers albums des Pink Floyd ou bien des Doors. Les États-Unis et la Californie s'apprêtent à vivre le fameux été de l'amour, The Summer of Love, sommet de la contre-culture hippie qui voit des centaines de milliers de jeunes déferler vers Haight-Ashbury's à San Francisco au son des guitares rugissantes de Jimi Hendrix qui sort alors ses premiers opus.
We'll be right back.
Jimi Hendrix, All Along the Watchtower, 1968. C'est dans ce contexte anti-guerre que s'étaient rencontrés deux types. Ces deux-là s'appellent James Rado et Jérôme Rani. Le premier vient de Washington, le second d'une famille italienne et pauvre de Pittsburgh. Tous deux sont comédiens. Ils se sont rencontrés quelques années plus tôt, en 1964, lors de la création à Broadway d'un spectacle dénonçant la peine de mort et qui n'avait pas survécu à sa première représentation. Au-delà de la déroute, entre ces deux-là, le courant passe. James Rado rêve depuis son adolescence de créer un spectacle de musical à Broadway, dans le genre classique, même si ses goûts musicaux le portent plutôt vers la pop-musique. Rani, de son côté, traîne dans les milieux du théâtre expérimental et participe les années suivantes comme acteur à une comédie musicale rock et anti-guerre intitulée « Viet Rock », créée notamment à partir d'exercices d'improvisation et qui connaît alors un petit succès. Tous deux décident d'écrire ensemble, des mois durant, les chansons d'un nouveau spectacle. Ils décident de reprendre le sujet de Viet Rock, à une époque où sont donc envoyés à tour de bras au Vietnam des jeunes gens, notamment depuis le quartier où ils vivent, l'East Village new-yorkais. Ils écrivent les paroles de 13 chansons et la trame d'un spectacle. Lequel spectacle raconte donc quelques mois de la vie d'une communauté de hippies de New York baptisée « The Age of Aquarius », l'ère du Verseau. Ces jeunes gens sont regroupés autour des deux protagonistes principaux, Claude Bukowski et George Berger, deux amis qui sont aussi un peu amants et qui refusent d'être mobilisés pour aller se battre au Vietnam, menant à la place une vie de bohème, de drogue, d'amour libre et d'idéaux ésotériques et astro. Pourtant, avec le temps, Claude, issu d'une Amérique rurale et conservatrice, commence à douter de ce mode de vie dissident et il rejoindra finalement son bataillon dans le Nevada et, in fine, le Vietnam dont on ne sait s'il reviendra vivant. Voilà pour l'argument. Encore fallait-il mettre cette histoire en musique. Pour ce faire, après plusieurs tentatives avortées, Rado et Rani sont mis en relation en 1966 via le producteur Nat Shapiro avec un certain Galt McDermott. À côté des deux auteurs chevelus, ce Canadien de Montréal un peu guindé, récemment installé à Staten Island, ne semble pas le candidat rêvé. Ce père de quatre enfants ne se départit jamais de sa cravate et il avouera plus tard qu'avant sa rencontre avec Rado et Rani, il ignorait ce qu'étaient des hippies. Pourtant, McDermott est ouvert d'esprit. Il a beaucoup voyagé dans sa jeunesse, a étudié la musique à travers le monde et notamment en Afrique du Sud, au Cap. En 1961, il a composé African Waltz que vient d'enregistrer le saxophoniste Cannonball Adderley. Et puis, la même année, il a sorti un bel album de jazz, Shapes of Rhythm.
They had said we want to do a rock and roll show, which was what I was into at the time.
Il m'avait dit on veut faire un spectacle rock, donc j'ai fait ce qui me plaisait, le rock que j'aimais. La période était super, 1967, la musique populaire était très intéressante. J'avais vécu 3 ans en Afrique et j'avais étudié la musique africaine qui m'avait beaucoup influencé. J'aimais le rock, le jazz, la musique de cow-boy que j'écoutais gamin, et puis le boogie-woogie, toutes ces musiques m'ont influencé. Galt McDermott en 2003. Entre le compositeur canadien et les deux auteurs, la sauce prend. Quelques semaines plus tard, McDermott revient avec une musique funky, bien que R sera par la suite sous-titré « comédie musicale ». Rock.
Les hommes?
Ben, je vois pas.
Les hommes vous attirent-ils sexuellement?
Vous me demandez si je suis homosexuel, un truc comme ça?
Oui.
Eh ben, je refuserai pas mon lit à Mick Jagger, mais faut pas croire. Je suis pas homosexuel, non.
Bon, très bien. Alors pourquoi êtes-vous bloqué devant une coupe de cheveux?
She asks me why.
Do you dig my Dixie Peach?
Your Dixie who?
Dixie Peach, Huba.
Oh. I'm just a hairy guy. I'm hairy noon and night. Hair that's a fright. I'm hairy high and low. Don't ask me why.
Don't know.
It's not for lack of bread. Like the grateful dead. Darling,
give me a head with hair, long beautiful hair, shining, gleaming, streaming, flaxen, waxen. Hear me down up there, hair shoulder length longer. Here, baby, there, mama, everywhere, daddy, daddy. A home for fleas, a hive for bees, a nest for birds. There ain't no words for the beauty, splendor, the wonder of my hair. Flowing, showing, long as I can grow with my hair. I want it long, straight, curly, fuzzy, snaggy, shaggy, ratty, matty, oily, greasy, fleecy, shiny, gleaming, steaming, flashing, waxing, knotted, polka dotted, twisted, beaded, braided. Flower powered and confetti, mangled, tangled, spangled, and spaghetti. They'll be gaga at the go-go when they see me in my toga made of blonde, brilliantine, biblical hair. My hair like Jesus wore it, hallelujah, I adore it, hallelujah, Mary loved her son. Why don't my mother love me? Hair flowing, showing, long as God can grow it.
Laisser mes cheveux voler au vent et se prendre dans les arbres, ils offrent un refuge aux puces, une ruche aux abeilles, un nid aux oiseaux. Il n'y a pas de mots pour décrire leur beauté. Je les veux longs, raides, frisés, crépus, noués, hirsutes, miteux, emmêlés, huileux, graisseux, cotonneux, brillants, luisants, fumants, noués. À pois, tordus, ornés, tressés, poudrés, fleuris, pleins de confettis avec des bracelets emmêlés, pleins de paillettes et de spaghettis. Hair, éloge loufoque et capillaire qui donnera son titre au spectacle, ici dans sa version de 1968. Cette histoire de cheveux qui est loin d'être anecdotique. Si les deux auteurs de la pièce racontent avoir été influencés par le titre d'une œuvre d'un artiste américain, Jim Dean, aperçu un jour au Whitney Museum et figurant des touffes de poils, Hair, des et par son titre, tient lieu de manifeste générationnel, renvoyant aux cheveux longs arborés par de plus en plus de jeunes hippies d'Amérique ou d'ailleurs. À l'époque, des articles de presse rapportent régulièrement des cas de gosses virés de l'école en raison de leur coupe de cheveux jugée non conforme. Pour écrire la pièce, Rado et Rani, les deux auteurs, se sont d'ailleurs inspirés de la réalité. Ils ont mis un peu de leur caractère respectif dans les rôles principaux, mais ils ont également utilisé ce qu'ils ont observé dans les rues de l'East Village. Dans ce quartier de Manhattan, qui a toujours été un lieu d'avant-garde, abritant à cette époque musiciens, étudiants ou artistes, et où traînent des gamins qui ne veulent pas être envoyés au Vietnam, mais qui luttent aussi contre tous les autres maux de l'époque, la société de consommation, la bigoterie, et qui se mettent à militer, à se regrouper lors de be-in. Certains des comédiens chanteurs seront d'ailleurs recrutés directement dans la rue. Pourtant, comme on le racontait en ouverture, vendre le spectacle s'avère difficile. Les producteurs de Broadway, la mec du théâtre et du musical new-yorkais, éconduisent les uns après les autres les deux auteurs. Jusqu'à ce que Rado et Rani frappent à la porte de Joe Papp, un amoureux de Shakespeare qui, en 1954, avait lancé un festival de théâtre en plein air, le Shakespeare Festival, donnant chaque année à voir à Central Park des pièces du dramaturge anglais. Soucieux de surfer sur l'engouement pour le théâtre d'avant-garde, Papp est également sur le point d'ouvrir un nouveau lieu de création dans l'East Village, au 425 Lafayette Street, sauvant au passage de la destruction annoncée les locaux d'une ancienne bibliothèque devenue le siège d'une association d'aide aux migrants juifs. Joe Papp décide que Hare ouvrira ce lieu qu'il rebaptise The Public Theatre et dont la vocation sera d'attirer un nouveau public pour des pièces d'un genre nouveau. Et ça tombe bien car Hare tient de l'expérimentation. Les comédiens improvisent à partir d'une trame. Les répétitions toutefois sont chaotiques. Certains comédiens ou techniciens ne comprennent rien au texte. Le metteur en scène, frustré, claque la porte lors de la dernière semaine de répétition. La générale est un fiasco. La première a lieu le 17 octobre 67 dans une chorégraphie signée Anna Sokolov. Rani y interprète l'un des rôles principaux et le compositeur McDermott lui-même y fait une apparition à la fin du premier acte sous les traits d'un policier. L'accueil critique est tiède, mais au cours des 65 représentations suivantes, le public est au rendez-vous. Même si cela reste assez confidentiel, c'est un public de contestataires. Or, Rado et Rani rêvent de plus grand. Ils rêvent d'un théâtre de premier plan, sur Broadway même, où depuis quelques décennies, le genre du musical a explosé et se développe. Broadway, avec ses salles plus grandes, plus prestigieuses. Ça tombe bien, car parmi les spectateurs qui se sont déplacés pour voir Air au Public Theatre se trouve un certain Michael Butler, un type de la haute de Chicago qui brigue alors un poste de sénateur sur la base d'un programme très anti-guerre. Butler est saisi par l'énergie qu'il voit déployée sur scène et revient à plusieurs reprises. À la fin des 6 semaines de représentation, Butler rachète les droits de Air pour $50,000. Broadway se rapproche. Évolue dans l'espace, mon âme est en orbite avec Dieu, mon esprit est aussi clair que l'air de la campagne, je sens ma chair et toutes les couleurs, marcher dans l'espace, mon Dieu, ta peau est douce, j'aime ton visage, comment osent-ils essayer de mettre fin à tant de beauté, tout ça pour nous garder sous leur contrôle, ils nous enterrent sous la suie et prétendent que ça n'est qu'une corvée, ils nous envoient nous faire tuer, Walking in Space, enregistré en 1969. Envoyer Hair à Broadway, l'intrigue est remaniée, rendue un peu moins brouillonne, plus réaliste. De nouvelles chansons sont également ajoutées, parmi lesquelles Let the Sunshine, qui musclera le final. La mise en scène est confiée à Tom O'Horgan, qui relance un travail avec les comédiens, les incitant à plus de spontanéité, à mettre d'eux-mêmes dans les rôles. De nombreuses improvisations viennent enrichir le scénario. O'Horgan, qui vient du théâtre expérimental, pousse les acteurs dans leur retranchement, leur demandant par exemple de se déshabiller au ralenti tout en invoquant Dieu ou Bouddha, ou bien de déclamer leur texte tout en se bousculant. Cette audace tous azimuts constitue la vraie révolution de Hair. Cette crudité, cette obscénité du langage, tous ces mots inouïs jusqu'alors à Broadway, sodomie, comme dans le présent titre, fellation, cunilingus, masturbation, etc. Et puis il y a la nudité, intervenant au cours d'une scène juste avant l'entracte qui voit certains comédiens ou comédiennes se déshabiller dans une saine émulation collective. Ceux qui se mettent à poil pendant cette séquence d'une trentaine de secondes touche un petit supplément de cachet. Toute cette exubérance, c'est du jamais vu à Broadway. Le 29 avril 68, la première a donc lieu au Biltmore Theatre, le seul établissement de Broadway ayant accepté de relever le défi. Une partie du public est choquée, l'autre électrisée par la scène de nu que certains détaillent à la jumelle quand d'autres en prennent carrément des photos, par l'irrévérence manifestée envers le drapeau américain, mais aussi par l'éloge de la paresse ou bien celle des drogues, sachant que sur scène, les comédiens fument réellement des joints, risquant certains soirs l'arrestation par la police. Tout ce mélange d'interdits bafoués et d'audace, de frissons, fait que soir après soir, le Biltmore Theatre affiche « Sold out ». prends des doses, défonce-toi, ris, plaisante et goodbye, je suis défoncé à tu sais quoi, marijuana, marijuana, Hare Krishna dans sa version de 1969. Lors de sa sortie à Broadway, les critiques de la presse sont dithyrambiques, quasi unanimes, même si le chroniqueur du New York Times écrit « Je ne crois pas que cela plaira à beaucoup de partisans de Ronald Reagan, alors gouverneur de Californie ». D'autant que le spectacle bafoue la sacro-sainte règle jusqu'alors en vigueur à Broadway et qui veut que les acteurs s'en tiennent à la scène, à l'écart du public. Or ici, dès le début, des membres de la tribu hippie évoluent parmi les rangées, enlacent ou embrassent certains spectateurs et invitent ceux qui le souhaitent à les rejoindre sur scène pour le final. On y retrouve ainsi des jeunes, mais aussi des bourgeoises de Park Avenue ou des types de Wall Street cravatés sortant du boulot. Hare coche toutes les cases pour déplaire aux plus réactionnaires, y compris évidemment celle de l'antiracisme, mettant sur un pied d'égalité acteurs blancs et noirs, et, au cours du spectacle, mettant en scène trois femmes blanches chantant leur désir des corps noirs avant que trois chanteuses noires, habillées comme les Supremes, ne leur emboîtent le pas, clamant leur appétence pour les blancs. Culture, jukebox, ce soir, des chevelus à Broadway. Black Boys suivi de White Boys, enregistré en 1968 avec le casting de la création de Broadway. Mais c'est bien le pacifisme et l'opposition à la guerre qui restent au cœur de Hare.
Le service militaire, c'est le peuple blanc qui envoie le peuple noir faire la guerre au peuple jaune pour défendre les terres qu'il a volées au peuple rouge.
Jean-Claude Héberlé, vous êtes devant la Maison Blanche, alors où en sommes-nous ?
Je veux dire que la capitale fédérale a décidément cette nuit un aspect assez inhabituel. Le centre de la ville, d'habitude, à cette heure-ci, est un désert. Aujourd'hui, c'est presque la foule des grands jours. Ça a été en tout cas l'embouteillage permanent pendant toute la journée. Et ça commence seulement à s'arranger maintenant. Il est 1h du matin à Washington, 1h15 même. Près de 30 000 personnes, malgré un froid très vif, ont finalement maintenant défilé devant la Maison Blanche. Il y en aura à peu près 40 à 46 000 demain, lorsque cette marche contre la mort se terminera. Et ce défilé ininterrompu continue. Vous entendez chaque marcheur crier en direction des fenêtres du président le nom d'un soldat américain tué au Vietnam. La marche est bien organisée, aucun incident sur le parcours.
So many mothers, sons are leaving home. Where are they going, boy? They going to Vietnam.
La guerre qui prend un tour de plus en plus critique en 68 lorsque les forces Vietcong lancent la fameuse offensive du Tet. En mai, les pertes américaines atteignent des niveaux vertigineux. 562 soldats tombent au cours d'une même semaine. Des GIs dont les atrocités commises en retour sont dénoncées par les reporters, qu'on songe au scandale suscité par le massacre commis dans le village de My Lai au mois de mars. Le 1er avril, le président Johnson annonce l'arrêt immédiat et sans condition des raids au Vietnam, appelant Ho Chi Minh à négocier la paix. C'est alors que, soudain, les violences se rapprochent, frappant les rues des grandes villes américaines avec la multiplication d'émeutes raciales. Contre toute attente, Johnson a annoncé qu'il ne briguerait pas de nouveau mandat et dans les tensions qui émaillent le mouvement des droits civiques, la campagne est marquée coup sur coup par deux assassinats, celui de Martin Luther King le 4 avril et, deux mois plus tard, celui de Bobby Kennedy. L'investiture démocrate échouant finalement à Hubert Humphrey qui s'inclinera face à Nixon. L'Amérique vacille et cette impression de chaos et de fin d'une civilisation Hare s'en fait l'écho.
Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no scarf, ain't got no gloves, ain't got no bed, ain't got no pot, ain't got no faith.
Je n'ai pas de maison, pas de chaussures, pas d'argent, pas de cours, pas d'amour, pas de nom. Pourquoi suis-je en vie? De toute façon, que me reste-t-il? Ain't Got No, I Got Life, soit deux chansons de la comédie musicale qu'avait rassemblé en 68 la chanteuse Nina Simone dans un album dont la plupart des morceaux sera enregistré trois jours après l'assassinat de Martin Luther King.
I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no friends, ain't got no schooling. Ain't got no children, ain't got no faith, ain't got no earth, ain't got no water, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no love. Then what have I got? Why am I alive anyway? Yeah, what have I got? Nobody can take. Got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile, I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boobies, got my heart, got my soul, got my back, I got my sex, I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got love.
Nina Simone, I ain't got no, I got life, ici dans une version enregistrée le 24 juin 1968 à New York. Hair connaît un succès immédiat, alors même qu'il est toujours joué au Biltmore sur Broadway, le spectacle fait des petits, se met à tourner ailleurs. Il est d'abord recréé à Los Angeles, à l'Aquarius Theater, occasionnant, le soir de la première, un embouteillage monstre sur Sunset Boulevard. Bientôt, 9 productions tournent simultanément à Chicago, Détroit, Seattle, San Francisco, Boston, mais aussi dans le Sud, embauchant pour l'occasion des comédiens locaux, parfois rejoints par les acteurs de la version de Broadway. Butler, le producteur, dira, avec cette couverture simultanée, avoir voulu peser sur l'opinion américaine et mettre un terme le plus tôt possible au conflit au Vietnam. Mais ça ne s'arrête pas là. Et bientôt, Hair s'exporte à l'étranger et là aussi innove. Tandis que jusque-là, les productions de Broadway s'exportaient en anglais, il est décidé pour Hair de traduire les paroles originales dans les différentes langues. Le travail d'adaptation va même jusqu'à incorporer les noms propres de lieux ou d'hommes politiques à ceux des pays où le spectacle est donné. Ce travail d'adaptation, c'est un Français qui s'en charge, Bertrand Castelli, un producteur hippie et milliardaire. Dans la foulée de la création triomphale du spectacle à Londres, Hair tourne à Stockholm, en Allemagne, en Australie. À chaque fois, la production permet à de nouveaux artistes de se lancer. La création à Munich donne ainsi à entendre pour la toute première fois la future diva du disco, Donna Summer. Donna Summer et la troupe allemande de Hair pour ce Der Wassermann. Hair est donc monté partout, au Mexique, au Brésil, en Argentine et même en terre communiste, à Belgrade dès 1969. Il n'arrive à Paris que fin mai, adapté, après que Gainsbourg a décliné la proposition, par Jacques Lanzmann pour être donné au théâtre de la Porte Saint-Martin.
Ils en sont à leur dernière répétition. Mais tous les jours, tous les soirs, depuis 3 mois... ils ont appris à marcher, à danser, à former la tribu de Hair. Pour l'adaptation, Jacques Lanzmann. Pour la mise en scène, Bertrand Castelli. Mais, je ne sais pas, est-ce que vous craignez pas d'avoir des problèmes, disons, de censure ici?
Aucune.
Mais il n'y a pas un spectacle moins sexy que Hair. Quand j'ai pris le taxi pour aller voir Hair à Londres, le chauffeur m'a dit « Alors vous allez voir Hair ?» Je lui ai dit « Oui, il m'a fait un clin d'œil, il m'a fait « Very, very sexy
!»
Oui.
« Very sexy », note Lanzmann, mais peut-être un peu trop sexy aux yeux des plus puritains. Ainsi, en janvier 70, devant le théâtre de la Porte Saint-Martin, des membres de l'Armée du Salut manifestent contre l'obscénité de la pièce, brandissant des pancartes « Non à la décadence, sauvons les enfants » ou « Endiguer la vague érotique ». En réponse, de jeunes spectateurs, rigolants, hilares, leur répliquent « Nous sommes tous des obsédés » ou encore « Armés du phallus ». La production parisienne où le rôle de Claude est confié à un débutant, Julien Clerc, qui, après avoir décliné la proposition, lui qui avait d'autres ambitions plus individuelles, finit par accepter le rôle.
On se guette, traqué à bout de souffle marchant, pétrifié dans nos manteaux d'hiver, refoulé aux frontières du mensonge des nations qui crèvent, tué par des rêves chimériques, écrasé de certitude, dans un monde glacé de solitude. Sa voix, si quelque part il y a l'espoir d'être un jour les enfants du hasard, je vois ma vie projeter son futur dans l'espace. Et le silence me répond en secret. Burger, j'ai l'impression de mourir.
Claude, Claude,
Chester England, England, Manchester, England, England, au bout de l'Atlantique. Je suis un génie, génie, et je crois en Dieu.
Laisser entrer le soleil, 1969, Julien Clerc qui tirera de cette expérience une grande notoriété avant de se lasser de la vie communautaire de la troupe et de refiler le bébé en 1970 à Gérard Lenormand.
J'aurais jamais cru qu'elle ferait un sec pareil. Tu sais où elle habite, on lui rendra ses fringues demain, mon vieux, et relax.
Sauf que demain, je serai parti.
Ah, ne me dis pas que tu vas sérieusement te présenter à leur singerie.
Ça te regarde? Qu'est-ce que ça peut te faire?
Ça me fait quelque chose et ça me regarde. Tu veux jouer les héros, te balader la fleur au fusil? Super macho, heureux dans son uniforme, c'est ça que tu veux, mec? Hein?
J'ai rien à te dire.
Détrompe-toi, moi j'écouterai tout ce que tu me diras. Je t'écoute, allez, parle, mon vieux.
Quelquefois, je te trouve ridicule.
Ouais, c'est ça, je suis ridicule, je suis ridicule. Je suis tout à fait ridicule, je suis même grotesque. Je veux pas aller là-bas, moi, tuer des mecs, assassiner des femmes, tirer sur des gosses.
Continue, sois bien ridicule, mais laisse-moi faire ce que j'ai à faire.
Pour qui tu le fais, alors?
Je le fais pour toi, mec.
Ôte ton doigt de tout mon nez, et si tu fais ça pour moi, te fatigue pas, parce que si j'étais dans tes pompes, eh bien, moi, je le ferais pas pour toi.
Mmh. Sauf que Claude, le personnage à la fin de l'histoire, finit bien par quitter sa communauté afin de s'enrôler et de partir pour le Vietnam. La version de Broadway sera donnée au Biltmore Theatre pas moins de 1750 fois jusqu'en 1972, avant que Laura de Hare ne s'estompe. Une tentative de remonter le spectacle en 77 à New York fait un flop. Hare connaîtra un second souffle en 1979 grâce à son adaptation au cinéma, comme on l'entendait à l'instant, dans un film réalisé par Milos Forman qui avait vu la toute première version du spectacle de 1967 avant son transfert à Broadway. Milos Forman qui avait certes un peu adapté l'histoire, faisant de Sheila, la colocataire de Claude et de Berger, une bourgeoise dévergondée, et puis introduisant un retournement tragicomique à la toute fin du film, un film qui toutefois connaît un immense succès et relance alors l'intérêt pour le musical. On se quitte sur le morceau qui referme ce spectacle, Let the Sunshine, sous-titré The Flesh Failures, les failles de la chair, inspiré d'un texte de Shakespeare. Quant au Sunshine, ce n'était pas seulement les rayons ardents du soleil, mais aussi le nom d'une petite pilule de LSD qui, en vous envoyant en orbite, vous maintenait à l'écart des fracas du monde. C'est ainsi que se referme ce numéro de Jukebox ce soir, Hare, le musical, quand les hippies s'invitent à Broadway. Merci pour leur travail toute cette saison à la petite équipe de Jukebox, à Shushan Djergaïan pour ses recherches historiques, à Antoine Villoz de la discothèque pour ses découvertes musicales et à Agnès Catou pour ses réalisations impeccables et inspirées. Merci également à Valentin Henry, à Pascaline Bonnet, à Marie-Vonne Abolivier qui nous a prêté sa voix pour le générique, ainsi qu'à tous ceux qui nous ont écrit au cours de cette année pour nous faire part de leurs suggestions. À la technique ce soir, c'était Guillaume Ledu. Retrouvez les 116 épisodes de Métronomique et de Jukebox sur franceculture.fr. Dès le week-end prochain, on vous accompagne pour une série de rediffusions. Ce sera en juillet, le dimanche à 19h et en août, les samedis et dimanches à la même heure. Pour notre part, on se retrouve le samedi 31 août pour une nouvelle saison d'Histoire en musique. D'ici là, bel été à tous.